La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Des humains prêts à en manger d'autres et la question du cannibalisme. Aujourd'hui dans le dossier de la tête au carré, Monder Kilani est anthropologue. Il s'intéresse à ce sujet depuis longtemps pour en explorer tous les contours entre le réel et l'imaginaire, le rituel et le sauvage. Il aborde ce phénomène pour justement nous en dire toute la complexité. Le cannibalisme qui a abondamment inspiré la littérature, le cinéma ou la peinture. Et Monder Kilani, dans son ouvrage « Du goût de l'autre », fragment d'un discours cannibale, propose un parcours qui va bien au-delà du cannibalisme exotique pour nous montrer aussi qu'il y a mille et une manières de se faire dévorer dans nos sociétés modernes. Il est mon invité dans un instant, il répondra à vos messages bien sûr sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, la découverte d'un nouvel organe dans le corps humain.
Et oui, et s'il est confirmé, ce sera le plus grand, l'interstitium, cette couche de tissu remplie de fluide et qui parcourt tout l'organisme, dévoile ses secrets. On en discute avec le gastro-entérologue Philippe Godberge.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne qui se demandera aujourd'hui qui a le droit de prendre des risques pour sa propre santé. Fanny Boyon réalise l'émission préparée par Chantal Lemontagnier avec Anna Massardier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, on vous propose un parcours cannibale aujourd'hui dans l'émission. Bonjour, Monder Kilani.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous publiez Du goût de l'autre aux éditions du Seuil pour explorer donc toutes les facettes du cannibalisme. Le cannibalisme, on va le voir, hein, qui dépasse largement la figure exotique du mangeur d'hommes. C'est aussi une belle métaphore pour parler de l'humain dans son ensemble.
Oui, tout à fait. Pour ne pas se restreindre à l'exotique ou au sauvage, on a essayé d'élargir le propos à notre société, à des pans entiers de notre société moderne.
C'est quand même un sujet qui vous a beaucoup fait voyager ?
Écoutez, voyager en tout cas dans les livres et dans les idées, dans les siècles, certainement, dans les controverses aussi.
Et sur le terrain ?
Mais bien sûr aussi sur le terrain, dans la mesure où... ce n'est pas qu'on rencontre le cannibalisme sur tous les terrains. Et d'ailleurs, c'est même difficile de rencontrer le cannibalisme, même dans les populations où on l'a pratiqué. Donc souvent, le cannibalisme apparaît au détour d'une discussion, au détour d'une pratique, au détour d'un aveu qui n'en est pas tout à fait un. Mais moi, personnellement, effectivement, je l'ai rencontré dans la littérature concernant la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai fait ma thèse sur les cultes du cargo, qui est déjà un sujet en soi, et qui est une façon de renvoyer les Mélanésiens à une pensée primitive, alors que les cultes du cargo sont un phénomène plutôt qui pousse les indigènes à se mobiliser contre la présence des Blancs, et surtout l'absence de réciprocité. Alors, c'est là, effectivement, où j'ai été confronté à cette accusation.
C'est ça. On vous a même pris pour un cannibale. Hein. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis, on se retrouve pour découvrir donc cette anthropologie du cannibalisme avec les messages des auditeurs auxquels vous répondrez. Retenez bien ce nom, l'interstitium, car il s'agit peut-être du 80e organe de notre corps et certainement le plus grand, couche ultra fine de tissu remplie de fluide qui compartimente tout notre corps et qui était jusqu'à présent passé quasiment inaperçu. C'est une sorte de peau intérieure, hein. Elle sert d'amortisseur, elle parcourt l'ensemble de l'organisme sans discontinuer. Et dans une publication parue hier dans la revue Scientific Reports, eh bien, elle montre justement cette publication que l'interstitium est certainement bien plus complexe qu'on ne le pensait. On en parle, Axel, avec notre invité.
Oui Mathieu, notre guide sera Philippe Godberge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue à l'Institut Mutualiste Montsouris. Alors cet interstitium, depuis quand est-ce qu'on passe un peu à côté sans le comprendre ?
Depuis qu'on a la capacité de voir les tissus à toute petite échelle, c'est-à-dire depuis qu'on dispose d'un microscope, pour se rendre compte que c'est un ensemble de cellules. Alors ces cellules, on les connaît, c'est des petites unités qui vont former effectivement nos organes. Et elles sont accolées les unes aux autres, ça forme un épithélium, où elles sont plus diffuses, en suspension, dans un liquide qui est effectivement l'interstitium. Alors autrefois, on le connaissait pas bien, mais maintenant on avait la capacité de le voir, mais il était quantitativement négligeable parce qu'à peine visible, et on s'intéressait beaucoup plus aux cellules qui l'habitaient, et on va s'intéresser plus aux muscles, à la cellule musculaire, à la cellule nerveuse qui le commande, plutôt qu'au liquide qui entoure tout ça.
Et pourquoi ces chercheurs vont jusqu'à proposer un nouvel organe alors aujourd'hui ?
Alors, il y a toujours une part de communication dans ça. C'est-à-dire que un organe, c'est une partie qui est en général, pour le grand public et même pour beaucoup de médecins ou de scientifiques, c'est une partie délimitée d'un organisme vivant qui va avoir des fonctions bien particulières. Alors là, c'est un peu paradoxal de parler d'organe dans la mesure où c'est pas une partie limitée et où la fonction n'est pas encore complètement connue. Mais disons que l'unité qui les conduit à parler d'organes, tient à la composition d'une part, et au fait qu'on connaît quand même d'autres organes qui sont un peu plus diffus, comme la peau, il peut y avoir des différences, et même le système circulatoire avec le sang ou le système lymphatique, on sait que ce sont des systèmes étendus qui ont une unité fonctionnelle. C'est un peu probablement la même chose pour l'interstitium, même si c'est une publication assez préliminaire, mais qui est probablement là encore à l'aube d'autres découvertes qui vont nous permettre d'expliquer des choses sur lesquelles on bute actuellement en termes de compréhension.
Comment il faut l'imaginer dans notre corps, cet interstitium ? Où est-ce qu'il se trouve ?
Alors ça, c'est une bonne question, c'est difficile, on peut pas le désigner du doigt parce qu'il est un peu diffus. Alors, l'image que je prends un tout petit peu, bon, c'est une image un peu culinaire, mais pour expliquer à mes étudiants, c'est de dire, voilà, un organe, ça va être comme un cake, vous voyez, bon, alors, vous avez la surface qui est la croûte, qui sont constituées d'une cellule épithéliale, et puis vous avez les fruits qui sont à l'intérieur. Alors, évidemment, on préfère les cakes avec beaucoup de fruits que ceux où il y en a peu, et quand on le coupe, on s'intéresse plus aux fruits qu'à la pâte, mais cet interstitium, c'est cette pâte très fine qui va être constituée, qui va relier ces différentes cellules les unes aux autres. Alors, pour le désigner, on le voit pas bien. Je dirais que on peut le voir travailler soi-même lorsque, par exemple, on se fait une ampoule. Quand vous enlevez l'organe qui est la peau au-dessus, l'épithélium, vous avez en dessous un tissu sous-épithélial qui est un petit peu rose, un petit peu fragile. Et puis, il y a du liquide, ça suinte. Ce liquide ne vient pas des cellules que vous avez enlevées, mais il vient de l'interstitium de la région qui remplit et qui va apporter différentes protéines et notamment des moyens de défense.
Donc Philippe Godeberge, on le connaissait bien déjà, cet interstitium.
Alors on le connaissait, mais pas bien. C'est-à-dire qu'on s'y intéressait assez peu, mais on savait qu'il existait puisque c'était décrit. On savait par exemple que pour qu'un globule blanc sorte des vaisseaux, traverse la paroi des vaisseaux et aille à l'endroit où on a besoin de lui, les globules blancs ça nous aide par exemple à nous défendre contre des tumeurs ou contre surtout l'infection, eh bien il fallait qu'elle traverse une zone dans lequel il n'y avait pas vraiment de structure et qu'on appelait l'interstitium. Il était fin, on voyait pas bien ce qu'il y avait dedans, et on disait, voilà, c'est le troisième secteur, ça traverse, et puis on s'y intéressait pas parce qu'il y avait encore beaucoup d'autres choses à découvrir qui paraissaient plus importantes. Donc, alors, on connaissait depuis longtemps, effectivement.
Ce qui fait aussi l'intérêt de cette publication et de ces travaux américains, c'est le lien qui se précise entre l'interstitium et peut-être le cancer.
Exactement. Alors, parce que finalement, il faut imaginer que dans notre corps, entre les organes que nous connaissions bien, il y a une espèce de lame très fine, alors qui n'est pas une lame constituée d'une espèce de, par exemple, on pourrait imaginer une couche de silicone ou un truc ou de gel. Il y a dedans un maillage, il y a des fagots, comme disent les anglo-saxons, il y a des fagots de fibres de collagène qui font un maillage, qui transforme ça un peu en labyrinthe. Mais il n'en demeure pas moins qu'en passant entre ces différentes fibres, eh bien, des cellules, des liquides, des protéines peuvent circuler, et notamment des cellules. C'est pour ça qu'on peut imaginer que ce tissu soit une voie un peu méconnue de diffusion de cellules, notamment de cellules tumorales.
Et on peut voyager dans tout le corps sans jamais sortir de cet interstitium, alors ?
Oui, conceptuellement oui, mais en pratique non. Il y a quand même parfois quelques barrières qui font que les zones ne communiquent pas, mais c'est vrai que on peut conceptuellement imaginer que si on rentrait dans l'interstitium au niveau du gros orteil, on peut remonter toute la jambe sans jamais passer par une structure cutanée, musculaire ou osseuse. Cet interstitium, ce liquide, après, c'est ça qui est le point de départ de vaisseaux particuliers qui sont les vaisseaux lymphatiques qui vont le pomper, c'est-à-dire qui vont se servir progressivement à le drainer. Et vous avez donc ce liquide, il va être progressivement résorbé. Ce qui fait qu'il n'y a probablement pas de circulation depuis l'interstitium de l'orteil jusqu'au haut de la cuisse, parce que tout ça, finalement, ça passe par le biais après d'autres vaisseaux qui sont notamment les vaisseaux lymphatiques, mais des cellules qui ont une capacité à se bouger, à se mouvoir, comme des globules blancs et éventuellement des globules blancs tumoraux, eux peuvent se glisser et échapper à une surveillance de notre système immunitaire.
Et pour l'instant, il n'est pas encore déclaré officiellement 80e organe. Hein. Il faut que ça passe devant un comité, hein, c'est ça ?
Voilà, il y a un label organe. Quand même. mais ceci dit, on avait dit un peu la même chose. Alors, vous allez. Alors, pourquoi est-ce que finalement, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on interviewe un gastro-entérologue spécifiquement sur l'interstitium ? C'est parce que l'une des zones où il y a probablement le plus d'interstitium, c'est notre tube digestif. Mmh. Et ça montre qu'on est vraiment là aussi au niveau de l'intestin. Alors, on plaide jamais que pour sa chapelle, mais on a très récemment mis en évidence, et vous l'avez fait dans vos émissions, le principe du microbiote qui est quasiment un organe à part entière, ou avez-vous même un cerveau qui a sa composition propre, mais il va communiquer avec le milieu intérieur en franchissant la barrière de l'intestin, mais aussi en franchissant tous les liquides qui sont dans cette barrière et qui sont l'interstitium intestinal.
Merci beaucoup Philippe Godberge pour toutes ces précisions autour de l'interstitium, peut-être, donc 80e organe du corps humain. Merci beaucoup Axel.
À demain.
Et à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, il y a 13 000 ans, un petit groupe d'humains marchait sur la côte ouest du Canada pour coloniser l'Amérique. Les anthropologues de l'Université de Victoria ont découvert 29 empreintes de pas emprisonnées dans de l'argile brune à 60 cm sous la plage de l'île de Calvert, au nord-est de l'île de Vancouver. Parmi ces empreintes, ils ont dénombré au moins trois différentes tailles de pieds, dont celle d'un enfant. Ce rivage isolé aurait ainsi hébergé des colonies d'hommes, comme en témoignent les vestiges archéologiques d'outils et d'aménagements artificiels datant d'au moins 14 000 ans. Cette publication renforce l'idée que les premiers Américains sont bel et bien arrivés d'Asie. Des photos de ces empreintes sont à voir sur notre page Facebook. Et si la capsule remplaçait la pilule, des scientifiques de l'Université de Stockholm seraient sur la voie d'un contraceptif féminin sans effet secondaire et surtout sans hormones. Élaboré à base de chitine, il se présente sous forme de capsule qui, une fois dissoute, rendrait le col de l'utérus parfaitement imperméable aux spermatozoïdes, présenté comme biocompatible par les chercheurs car inspiré par la coquille des crustacés. La molécule active ne modifie qu'une partie superficielle de la muqueuse et ne pénétrerait pas dans cette dernière. Ce projet est en voie de brevetage et de commercialisation. Et puis les tortues de mer qui utilisent leurs nageoires pour manipuler leurs proies, cette découverte chez un reptile a surpris les chercheurs de l'aquarium de Bay Monterey en Californie. Jessica Fuji, la spécialiste en écomorphologie de l'équipe, montre que malgré un cortex frontal faiblement développé, les tortues auraient des comportements similaires aux mammifères marins. Leurs nageoires marines, qui ont initialement évolué pour le déplacement, serviraient pour toutes sortes d'autres tâches comme la marche et, plus curieusement, pour l'alimentation. Des photos montrent également une tortue marine tenant entre ses nageoires une méduse ou en embrochant une autre avant de la manger. Et bien justement, cannibalisme dans un instant, c'est le sujet de la tête au carré. Benjamin Biolay, Si tu suis mon regard.
J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
La tête au carré.
Voilà, Mandar Kilani qui a reconnu évidemment l'extrait à l'instant de Silence des agneaux, voilà, pour parler du cannibalisme. Et vous êtes notre invité cet après-midi en tant qu'anthropologue et professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Vous publiez Au seuil du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale au seuil dans la collection La couleur des idées. Alors, c'est un parcours cannibale qui, in fine, va nous montrer que le monstre n'est peut-être pas celui auquel on pense tout de suite. Et justement, ce sous-titre fragment d'un discours cannibale. Il y a un clin d'œil à Barthes, très clair. Et puis, on parlera d'amour, d'ailleurs, aussi, au cours de ce parcours avec vous.
Oui, tout à fait. Effectivement, moi, ma première idée, c'était que le titre soit fragment d'un discours amoureux.
Ouais.
Cannibale.
Justement, le clin d'œil, c'est fragment d'un
aussi,
discours amoureux.
Effectivement, le clin d'œil, puisqu'il y a une relation évidente entre manger et aimer, ou faire l'amour, ou copuler.
Oui.
Et puis aussi Barthes, parce que comme j'essaie d'analyser le cas d'Issei Sagawa, donc le fameux
japonais de Paris,
voilà, cannibale japonais, ouais, de Paris,
ouais.
Il a des réflexions très intéressantes sur la crudité du Japon, qu'il analyse comme justement un élément plutôt de sophistication culturelle, alors qu'on a réduit Issei Sagawa à la crudité japonaise et donc à une certaine forme de barbarie, disant voilà, ils sont capables de manger manger l'autre parce qu'ils mangent cru.
Ouais.
Voilà, donc c'était un double clin d'œil à Roland Barthes.
Bah, puisque vous en parlez, on peut tout de suite l'aborder, parce que ça, c'est un des événements contemporains les plus marquants, en tout cas pour nos sociétés, d'exemple de cannibalisme. Hein, c'est-à-dire ce Japonais qui a dévoré la femme qu'il aimait, tout simplement.
Oui, tout à fait.
Hein.
Effectivement, mais bon, moi ce qui m'intéressait, c'est d'aller au-delà de l'anecdote, au-delà de l'acte particulier, mm-hmm, et en plus exotique, enfin un Japonais qui mange une Néerlandaise à Paris. Mm-hmm. Derrière cette fascination pour l'étranger, l'étrange, l'exotique, le Japonais, ce qui m'intéressait, c'est au fond la manière dont Issei Sagawa lui-même a restitué son expérience. Et on a eu la chance, entre guillemets, puisqu'au fond il a été... enfin, acquitté. Donc, il n'a pas été poursuivi à Paris parce qu'elle a été considérée comme irresponsable, et il est reparti au Japon, et tout de suite, il a commencé à écrire. Et il y a Juro, il y a un grand romancier japonais, Juro, qui a écrit un texte sur lui, digression autour de Issei Sagawa, pour comprendre finalement que le cannibalisme, justement, ce n'est pas le fait, c'est pas la monducation de l'homme par l'homme.
Mm-hmm.
C'est
donc
bien
le
plus
fait
que
de
ça.
Manger l'homme, hein,
c'est voilà, c'est
de la chair de l'homme.
Voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est plutôt la dimension symbolique, ce qu'on fait l'acteur ou les acteurs qui pratiquent ou qui sont prêts à passer à l'acte.
On va écouter justement la voix d'Issei Sagawa, parce qu'on a la chance aussi d'avoir son témoignage. C'est quasiment une confession sur un divan psychanalytique, hein, ce
tout
qu'on va
fait,
entendre. C'est
fait.
Assez étonnant, très saisissant, même troublant, et
tout
on l'écoute ensemble.
Pour les spécialistes japonais, Sagawa, le cannibale qui vient de sortir de l'hôpital, n'est même pas un malade mental. Après son horrible crime, le meurtre d'une néerlandaise de 25 ans et son acte de cannibalisme consommé pendant 4 jours, nos psychiatres avaient dit qu'il était totalement fou au moment de son acte. Sagawa avait découpé la jeune femme en morceaux et il l'a mangée pour consommer son amour pour elle, avait-il dit. Des membres d'une télévision privée se sont rendus au Japon et ont ramené un document pour mieux comprendre un tel acte.
Le cannibalisme, ce n'est pas des choses horribles. Ce n'est pas le criminel, pas du tout. C'est une sorte d'expression de l'amour. Par exemple, si on met nos bébés dans le noir, ils crient. Pourquoi ils crient? Ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Ils demandent le contact avec quelqu'un d'autre, surtout sa mère. Justement, c'est une façon de contacter avec quelqu'un d'autre, surtout avec quelqu'un qu'il aime. Donc, mon cannibalisme, c'est justement pareil. Je voulais sentir l'existence que j'aime. Je veux toucher, je veux sentir plus fortement.
Voilà, ça c'est troublant de l'entendre, hein, Issei Sagawa.
Tout à fait.
Et de faire ce lien entre le cannibalisme et cette image du bébé aussi.
Tout à fait. Alors justement, Issei Sagawa va tout de suite au-delà de l'acte de mendication de la nécessité et il proclame, je le cite, que la question du goût de la chair reste toujours dans le brouillard. Mmh. Donc on voit bien en fait que la question centrale n'est pas là. Et l'auteur dont je parlais tout à l'heure, Juro Cara, qui a écrit donc cet ouvrage et qui est venu à Paris pour suivre le parcours d'Issei Sagawa, en fait il a compris aussi qu'on ne peut pas parler du cannibalisme en le réduisant à un acte purement nutritionnel. Alors, dans sa correspondance à Sagawa, il dit ceci, il se demande si Sagawa était véritablement préoccupé de sensations gustatives. J'entends, il n'y a rien de sensuel dans votre acte, mais uniquement du cérébral. Mmh. Donc voilà, en fait, ce serait au fond un peu une piste pour mon ouvrage. Mais ce qui m'intéresse dans le cannibalisme, c'est sa dimension symbolique, même s'il y a un acte de mendication.
Oui. Cela dit, vous parlez aussi dans votre livre d'aspects gustatifs, voire gastronomiques aussi. On pourra en discuter tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de facettes autour de cette question qu'effectivement, on peut aller sur différents terrains. Comment vous avez été amené à vous intéresser à cette question du cannibalisme, Mander Kilani, au départ, alors ?
En fait, bon, il y a plusieurs pistes, bien sûr. Bon, d'abord, la première piste, c'est que la catégorie du cannibalisme est une catégorie en quelque sorte classique, bien qu'elle a toujours été controversée. Mmh. Et que jusqu'à aujourd'hui, nous avons presque deux positions irréductibles par rapport à l'interprétation. Une interprétation, pour aller très vite, matérialiste, qui consiste à dire que même les populations qui pratiquent rituellement le cannibalisme le font par manque de protéines, pour aller très vite, donc par nécessité. C'était déjà une thèse au XVIIIe siècle. Là, Diderot l'avait déjà postulé, De Pau aussi, donc c'était pas du tout nouveau. Et l'autre thèse, c'est de dire que le cannibalisme, au-delà de l'acte d'ingérer, est d'avoir un acte symbolique, est une façon de témoigner de relations sociales et témoigner d'un certain nombre de valeurs. Ouais. Et c'était Montaigne, déjà, le représentant de cette vision.
Oui, d'ailleurs, vous le citez dans la conclusion de l'ouvrage, mais alors, la controverse, elle n'était pas liée au fait qu'on se demandait si on pratiquait le cannibalisme. Ça, c'est une chose qui est avérée.
Mais en fait, oui et non, dans la mesure où on a pas de témoignage direct du cannibalisme dans les sociétés qui auraient pratiqué le cannibalisme. Donc en fait, les anthropologues ne peuvent accéder au phénomène qu'indirectement à travers ce que peuvent raconter les anciens, à travers certains mythes, à travers certaines pratiques, et les déduisent donc de tout cet univers. Donc en fait, le cannibalisme est toujours en quelque sorte un aveu. C'est-à-dire, il n'a jamais été directement observé.
Ouais. Ça, c'est une difficulté pour une science, de ne pas pouvoir l'observer directement.
Mais bien sûr. Mais moi, je pense qu'au-delà du cannibalisme, c'est une difficulté pour tous les sujets, pour tous les objets. Dans la mesure où les sujets ou les objets de la culture passent toujours par la médiation du langage, du symbolique, passent par le conte, par le mythe, par la poésie. Donc, on n'a jamais un accès direct au réel. Et même quand on a accès à un réel, entre guillemets, ben ce réel, il se donne dans une sorte de description qui n'en est pas une. Donc il faut pouvoir entrer dedans et décortiquer le tissu social qu'il y a derrière, d'autant plus que l'observateur projette toujours ses visions, ses fantasmes sur ce qu'il observe. Ouais. Et l'anthropologue n'échappe pas, non pas qu'il ne fait pas de la bonne science, mais on ne peut pas faire autrement de projeter ces catégories pour analyser un phénomène.
Ouais. Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce que vous décrivez parfaitement d'abord votre méthode scientifique, celle de votre travail de terrain aussi en tant qu'anthropologue. Et sur cette question donc du cannibalisme, on arrive parfois, après avoir passé du temps auprès de populations, par exemple, à avoir précisément des aveux, c'est ce que vous dites dans certains exemples, mais qui arrivent à des moments très inattendu au fond.
Absolument, absolument. On ne s'y attendait pas. Par exemple, le fameux exemple de Pierre Clastres chez les Guayaquis. Il était persuadé, justement, qu'il n'y avait pas de cannibalisme.
Qui sont les Guayaquis?
Les Guayaquis, et puis que c'était...
Qui sont-ils?
Oui, c'est une population indienne du Paraguay. À l'époque où Pierre Clastres a travaillé, ils étaient en train d'être, en bout de parcours, malheureusement à cause des maladies, à cause de l'acculturation. Et donc il a travaillé parmi une bande qui essayait de résister le plus possible. Et il partait de l'idée justement que le cannibalisme est d'abord une accusation que les colons ont utilisée pour massacrer les Indiens, et que finalement, au bout d'une année, ils n'en voyaient pas. Et c'est au détour d'un aveu qui ne portait pas directement sur le cannibalisme, qu'il a découvert, au fond, qu'on pratique le cannibalisme mortuaire. C'est-à-dire qu'on déterre les ossements des morts, et qu'on les pile, on les fait bouillir et on organise des cérémonies, en fait, de second enterrement, hein, second enterrement. Donc, en fait, il y a accédé à travers l'aveu. Et après avoir parcouru les différents imaginaires historiques autour du cannibalisme, accusation, pas accusation, aveu, etc.
Paul nous dit sur franceinter.fr les images du blanc qui était en train de cuire dans une marmite, est-ce que ça n'était pas une manière de montrer aux Occidentaux le sauvage anthropophage ?
Oui, ça c'est le cliché le plus fort, c'est vraiment le degré zéro de la description du cannibalisme.
Qui était abondamment utilisé.
Voilà, hein, telle qu'elle a été construite
le blanc
à un certain moment.
Ben
voilà,
de,
en train de cuire, voilà. En général le blanc, soit c'est le missionnaire, soit c'est l'aventurier, soit c'est le découvreur, l'explorateur. Quoi.
C'est ça.
Et donc c'est une vision extrêmement bien sûr simplifiée, parce que pour la bonne raison en fait que un cannibalisme tempéré, un cannibalisme bien ritualisé, ne consiste pas du tout à manger l'étranger. Au contraire, l'étranger, c'est un danger. Oui. On se mange entre
c'est
soi.
C'est lui le cannibale, d'ailleurs, l'étranger.
En général,
hein.
Oui, c'est plutôt
ça.
Lui.
C'est lui qui porte la figure du cannibale.
Du cannibale, finalement, c'est pour ça. Dans ce sens, on peut dire justement que le cannibalisme, au fond, ne définit rien, dans la mesure où celui qui accuse les autres d'être cannibale et lui-même, en fait, parfois, sans le savoir, accusé de cannibalisme et d'un cannibalisme sauvage. Donc, en fait, le cannibalisme est toujours relatif. On est toujours le cannibale de quelqu'un.
Allez, on y revient dans un instant. C'est le sujet de La Tête au Carré avec les messages sur franceinter.fr. Et on se retrouve juste après Calypso Rose.
Because you ain't got no money to take you back to Trinidad.
et la voix de Calypso Rose à l'instant.
La tête au carré.
Juste fais ça pour essayer.
Si c'était juste pour essayer, t'aurais pas pu choisir autre chose que mon doigt. Y a rien d'autre qui t'intéressait sur le menu. J'espère qu'il était bon, moi.
T'as un goût de curry.
Et du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale, c'est Monder Kilani, anthropologue, qui est notre invité cet après-midi avec cet ouvrage qui sort au seuil dans la collection La couleur des idées. Et vous nous rejoignez avec vos messages sur franceinter.fr. Alors vous commencez d'ailleurs votre ouvrage avec la lettre d'une étudiante en médecine, personnellement touchée, écrit-elle, par le phénomène, et qui cherchait votre appui d'ailleurs en vous écrivant. Qu'est-ce qui se passait au fond pour cette jeune femme? Est-ce qu'elle témoignait tout simplement d'une peur panique sur la question?
En fait, oui, c'est l'interprétation que j'ai faite a posteriori, parce que quand j'ai reçu cette lettre, au fond, elle m'a beaucoup effrayé. J'ai été confronté, moi qui enseignais dans un auditoire et qui enseignais les théories anthropologiques, les interprétations autour du cannibalisme,
Je
restais ou on restait dans l'abstrait, quoi, même si ça relevait parfois de cas très concrets de description, comme le radeau de la Méduse et autres. Mais là, je reçois une lettre dans laquelle une personne est directement impliquée, et qui exprime une peur panique, au fond d'être mangée, mais à travers un certain nombre d'éléments qu'elle a mis en évidence, à savoir qu'elle a trouvé ou qu'elle aurait trouvé des ossements correspondant plutôt à un enfant dans une poubelle, qu'elle a fait les démarches auprès de la police, auprès des médecins, puis que personne lui répondait. En fait, donc cette lettre, je l'ai laissée de côté pendant très longtemps, en fait. Et c'est comme quand j'ai commencé à écrire, et quand j'ai réfléchi sur le phénomène du cannibalisme, je me suis dit, mais qu'est-ce que le cannibalisme en dehors de cette mendication de l'homme par l'homme, ou de la femme par la femme, enfin, il faut quand même généraliser la parité. Je me suis dit, justement, voilà, cette lettre exprime toute l'ambivalence du phénomène cannibalisme, surtout toute sa force, puisque on est tout le temps pris dans une situation où on a peur d'être mangé, mais
par
aussi
l'autre.
On a envie de manger. On a peur d'être ingurgité, mais on a envie aussi d'ingurgiter l'autre. Donc on est tout le temps pris dans cette dialectique, dans cette relation dans ce renversement, en fait, continu.
Monder Kilani, à quel moment, dans quelles circonstances est-ce qu'on vous a pris vous-même donc, pour un cannibale, alors?
Ben, là aussi, c'est une façon, en fait, d'illustrer ma démarche, et puis qui m'a poussé à construire mon interprétation du cannibalisme et d'aller au-delà donc d'une analyse des phénomènes avérés qui ça a été fait par d'autres anthropologues et très bien. Donc j'ai des collègues américanistes ou autres qui ont fait un travail formidable sur le cannibalisme dans l'interprétation et à travers un inventaire. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller au-delà des cas classiques pour comprendre le phénomène cannibale comme un phénomène culturel plus global et comme l'expression d'un malentendu culturel. Voilà. Et moi-même, j'ai été pris justement dans ce réseau de projections et d'images en Papouasie, dans le Sépik, dans la région du Sépik où je me trouvais, où à un certain moment j'ai été pris pour un cannibale. Bon, il a fallu du temps, enfin, pour que la personne m'avoue cela, enfin, après plusieurs.
Mais ça veut dire que vous avez suscité de la peur auprès de ces
personnes?
Non,
pas du tout. Non, parce que j'étais plutôt dans.
Ou c'était juste une appellation pour dire l'autre et l'étranger qui arrivait.
Voilà, exactement, en fait. Pour aller très vite, l'étranger était considéré comme venant d'au-delà des mers, et si ils reviennent, sous forme de blanc en général, c'est les ancêtres qui reviennent de la mort. Donc, il y a une ambiguïté, les ancêtres, normalement, ne devraient pas revenir, ils sont bien à leur place au-delà, mais s'ils reviennent, c'est qu'ils vont nous manger, ou on a fait une faute, et comment entrer en situation. Donc l'étranger, en fait, est à la fois l'ancêtre. Donc il est à la fois bienveillant, il peut apporter la culture avec lui, mais en même temps il peut être aussi dangereux, puisque les morts ne sont pas censés revenir. Donc le blanc a été pris en quelque sorte pour les ancêtres et pour des cannibales.
Comment ça se passe justement dans ce cas précis, quand on est anthropologue, qu'on est face à une population qui a cette croyance? Comment on en discute avec elle précisément? Est-ce qu'on essaie de déconstruire cette croyance, ou est-ce qu'au contraire, finalement, on la maintient?
Ben,
et on l'accepte.
C'est-à-dire, on essaie de l'interpréter un peu différemment. C'est-à-dire, moi, je ne l'ai pas pris à la lettre. J'ai essayé de comprendre pourquoi il m'a associé à un cannibale. Mais en fait, c'est tout simple. Il m'a associé, bon, bien sûr, les populations locales, elles ont été confrontées à différentes, entre guillemets, tribus de blancs. Hein, les Allemands d'abord, les Anglais, les Britanniques, les Américains, pendant la guerre du Pacifique, les Japonais. Et en fait, donc, pour eux, au fond, les blancs, ça se mélange et à un certain moment, on m'a pris au fond pour alors que j'étais plutôt suisse européen, on m'a pris pour un japonais. Enfin, peut-être parce que j'ai des yeux un peu bridés. Et c'est vrai que les Japonais ont pratiqué du cannibalisme pendant la Deuxième Guerre mondiale sur plusieurs îles du Pacifique et notamment en Papouasie. Donc, pour lui, c'était un aveu. C'était une façon d'entrer en contact avec moi, de me dire, au fond, bah, je t'aime bien, etc. Mais dis-moi qui tu es, finalement. Parce que c'est ça, à travers l'accusation de cannibalisme, c'est une façon, au fond, de me semer à moi, à me définir d'où je viens, etc. Donc, moi, j'ai pris cette accusation de cannibalisme plutôt comme une invitation à un dialogue, à un échange. Et je l'ai prise à ce titre-là.
On va écouter un document qui date de 1956, c'est les souvenirs d'un ancien colonial, il s'appelle Julien Maigret, et il raconte son voyage en République centrale-africaine, voyage qu'il avait effectué en 1904. Écoutez, c'était sur la RTF.
Au cours d'une de mes promenades aux environs du village, le hasard me conduisit vers un groupe de cases à l'orée d'un bosquet fort épais, ce qui frappa fort désagréablement mon regard. Ce fut le lugubre alignement de crânes humains qui me fixaient de leurs yeux vides. Certains de ces crânes, tout verdis par l'humidité, s'ornaient d'une sorte de mousse crépue. D'autres crânes, plus récents si j'ose dire, étaient barbouillés de traînées d'un rouge noirâtre dont l'origine ne laissait aucun doute. Évidemment, ces peuples qui m'attiraient par la simplicité de leur vie, si proche à mes yeux de celle des gracieuses antilopes aperçues paissant parmi les arbustes fleuris des pelouses, ces peuples étaient aussi cruels que les autres peuples. Ainsi qu'on me l'avait dit, ils étaient anthropophages. Rendez-vous compte de l'horreur que ce mot soulevait dans notre esprit de civilisé au début de ce siècle.
Voilà, souvenir d'un ancien colonial. Donc ça date de 1956, mais témoignage d'une chose vue en 1904. Qu'est-ce que vous en pensez, Monder Kilani? On a une description assez classique, finalement, non?
Ah, tout à fait.
La question, là.
On est vraiment
on est presque dans les clichés.
On est dans le stéréotype. Et d'ailleurs, le cannibalisme sied bien, en fait, au stéréotype. C'est pas pour rien que c'est l'accusation la plus fréquente dans l'histoire et dans toutes les cultures.
Ah oui?
Ah oui, absolument. C'est-à-dire, la question de cannibalisme, on la retrouve vraiment partout, dans toutes les cultures et à toutes les époques. Là, c'est le stéréotype qui n'arrête pas de revenir et qui n'arrête pas d'être réinventé par les différents voyageurs-découvreurs. Mais en fait, il reprend une matrice qui a été mise en place à l'époque de Colomb et de son médecin de la deuxième expédition, Chaka. Et on retrouve exactement cette description. En contextualisant, lui aussi, il s'est promené autour du village et il a trouvé des ossements et à partir de là, il a fabriqué toute une mise en scène et projeté justement un banquet cannibale. Et tous les romans cannibales Robinson Crusoe déjà, Ballantyne avec l'île de Corail, tous les romans cannibales ont repris cette scène, disons, inaugurale de Chaka au tout début du XVIe siècle.
Oui. Alors, il y a beaucoup de messages des auditeurs. Larry qui nous dit sur Twitter, le proverbe « l'homme est un loup pour l'homme » n'est-il pas en lien avec le cannibalisme ?
Moi, je dirais que non, ou alors c'est vraiment un détournement de ce qu'est le cannibalisme. Parce que le cannibalisme rituel est le cannibalisme de relation, de réciprocité. On mange en fait quelqu'un qui nous ressemble parce qu'on a besoin au fond de cette altérité pour nous construire nous-mêmes. Donc c'est pas du tout dans cet esprit-là que les populations pratiquent le cannibalisme rituel.
Mais quand vous citez le petit chaperon rouge par exemple, c'est le loup qui mange la petite fille là, en l'occurrence.
D'accord, mais là on est alors dans le symbolique, dans le métaphorique et au fond le loup il est là comme un opérateur. Il nous permet, au fond il permet au petit chaperon rouge de prendre conscience de sa transformation, du fait qu'elle devient pubère et qu'elle doit remplacer la mère. Et le loup, il est là, au fond, il même il, à la limite, le loup joue un rôle positif dans la mesure où il montre à la fille ce qu'elle est devenue, et notamment à la fille, à la mère et à la grand-mère, le fait de respecter la succession des générations. Parce que finalement, c'est quoi d'autre, cette histoire, que la question de la fécondité? Au fond, la fille mange la fécondité de la mère.
Qu'en est-il de la législation, demande Quentin sur Facebook. Le cannibalisme est-il clairement interdit en France et dans d'autres pays?
Non, en fait, très paradoxalement, tout comme l'inceste, le cannibalisme n'est pas du tout interdit. C'est pour montrer justement la difficulté. Mais comment caractériser un acte cannibale? Donc, dans les législations, il n'y a pas du tout de condamnation explicite dans le code pénal du cannibalisme, tout comme il n'y a pas une condamnation de l'inceste.
Allez, d'autres questions pour vous, Mondir Kilani, dans un instant. Voilà, hasard de la programmation, c'était Beefsteak avec Forever Pavot à l'instant.
Ça tombe bien.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, Mondir Kilani, du goût de l'autre. On peut parler gastronomie d'ailleurs, on peut en dire un petit mot, parce que vous l'évoquez dans le livre.
Écoutez, oui, en tout cas, c'est un thème littéraire assez couru. Par exemple, Mishima, bien sûr, mais Vázquez Montalbán, enfin, le grand romancier espagnol. Tout à fait, non, le cannibalisme donc là, a c'est beaucoup vraiment inspiré. C'est-à-dire le goût, oui, bon, bien sûr, on s'est toujours posé la question, mais quel goût a la chair humaine pour l'homme, quoi. Enfin, c'est toujours posé cette question dès le départ. Puis on y répond de différentes façons. Il y en a qui l'associent au porc. Pourquoi ? Parce que ce serait l'animal le plus proche. Mm-hmm. D'autres l'associent plutôt au veau, etc. Donc tout
il y a eu des témoignages indirects.
Oui, bon, mais là de nouveau, enfin, il faut voir vraiment dans quelle mesure ce sont des témoignages qui correspondent à la réalité, à une pratique attestée, quoi.
Parmi les événements marquants, cet accident d'avion uruguayen en octobre 1972 dans le massif des Andes. C'était une équipe nationale de rugby. On va écouter justement l'extrait du film Les Survivants, et puis on commente ça juste après ensemble.
Bon, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Ils ont cessé les recherches.
Oh non, quoi ?
Ils ont décidé d'abandonner les recherches, il va bien falloir qu'on se débrouille pour sauver notre peau, et pour ça, il faut manger.
Manger quoi ?
Putain, quoi ?
Non.
Les morts ?
Il veut dire manger les morts.
Exactement. Et tu veux qu'on mange des êtres humains ?
Non, je veux qu'on mange de la viande pour ne pas mourir.
Je pourrais jamais.
C'est dégoûtant.
Je pourrais pas faire ça.
Ce qu'il y a dehors, là, dans la neige, c'est plus que de la viande, Antonio. De la nourriture.
Je préfère mourir. Parce que moi, je crois en Dieu et je redoute son jugement si je faisais une chose pareille.
C'est lui qui nous a mis ici.
Et peut-être l'a-t-il fait comme une épreuve? Pour voir si nous sommes toujours civilisés.
J'ai toujours cru que Dieu voulait qu'on suive notre cœur, qu'on serve de notre raison, qu'on lutte pour vivre.
À tout prix?
Non. On ne doit pas tuer des innocents.
Qu'est-ce que tu fais de notre innocence? Qu'est-ce qu'il adviendra de notre innocence si nous survivons en étant des cannibales?
Voilà, Mandir Kilani. Là, on est dans le mysticisme du cannibalisme hein, aussi.
Oui, cette scène, en fait, résume parfaitement les deux approches dont je parlais tout à l'heure du cannibalisme. Une approche naturaliste, à savoir, le cannibalisme, c'est que de la viande, des protéines. D'ailleurs, là, au début, on disait, mais il fallait le manger, surtout cru, parce que c'est là où il y a le plus de protéines. Mais personne n'a transgressé. Parce que, justement, il y avait une réticence à transgresser un tabou culturel.
Ouais.
C'est à partir du moment où un argument théologique a été mis en avant pour dire, au fond, c'est une épreuve
que Dieu nous envoie.
Voilà, en fait. Et on va y répondre. Et d'ailleurs, le Christ n'a-t-il pas donné son corps pour que la communauté chrétienne puisse vivre? Et c'est quand l'argument théologique a pris le dessus que les survivants ont pu transgresser le tabou.
Ouais.
Et en transgressant le tabou, d'ailleurs, ils ont créé des règles très précises, des règles culturelles. Donc, ils ont pratiqué, en quelque sorte, un cannibalisme rituel. C'est pour montrer, en fait, que manger de la chair humaine suppose toujours une symbolisation.
En hiérarchisant aussi les organes.
Bien sûr. Tout à fait.
Qu'ils allaient manger.
Les organes, en fonction, bien sûr, de l'imaginaire, de leur culture, en fonction aussi de la proximité des personnes, des corps des morts. Donc, en fait, par exemple, les très proches se sont abstenus de manger le corps du frère ou de l'épouse ou du mari. Et donc, on a hiérarchisé non seulement les personnes à manger, qu'elles ne soient pas trop proches pour que ce ne soit pas de l'inceste,
mais leurs organes aussi.
Et de nouveau, les organes. Il y a des organes qui symboliquement ont une signification et d'autres pas.
Lesquels, par exemple? Quel est l'organe qu'on ne va pas manger en premier parce que justement.
Mais par exemple, le corps, parce qu'il est extrêmement chargé, bien que là aussi, dans certains rituels de vengeance, c'est la première chose qu'on mange. Chez les Aztèques, par exemple, c'était le corps. Mais dans le cas particulier, par contre, les intestins, on les a mangés. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, un Suisse, disons, puisque je viens de Suisse, ne mangerait pas du tout les intestins, même déjà les intestins de la vache. Enfin, c'est pas dans la culture. Alors que dans la gastronomie, disons, uruguayenne ou méditerranéenne, l'intestin est un mets de choix.
Étienne nous dit, si je me souviens bien, les Guayaquil ne se contentaient pas seulement des os de leurs morts, mais de la chair aussi, notamment le sexe des hommes donné aux femmes enceintes, donné en priorité pour des raisons de fertilité.
Oui, parce qu'il y a une symbolisation, effectivement. Enfin, il y a des organes femelles, il y a des organes mâles du corps, et donc on va choisir le type d'organes masculin ou féminin pour accroître soit la féminité, soit la masculinité. Donc le cannibalisme joue aussi dans la construction du genre, la construction du masculin et du féminin.
Ouais, Philippe nous dit, on a en tête le cannibale qui pratique l'exocannibalisme, donc le fait de manger les autres. Il semble que le cannibalisme soit surtout de l'endocannibalisme. En d'autres termes, on mange d'abord les siens et pas les autres, et surtout on n'a pas le choix de les manger.
Oui, bon, ça dépend. Hein. Bon, disons grosso modo, on fait une distinction entre l'endocannibalisme et l'exocannibalisme. L'endocannibalisme, en général, pour aller très vite, c'est du cannibalisme mortuaire, c'est-à-dire on mange ces morts pour qu'ils ne reviennent plus et qu'ils soient définitivement admis dans l'autre monde. Alors que l'exocannibalisme, c'est plutôt un cannibalisme guerrier qui se pratique entre ennemis alliés. Entre beaux-frères, en quelque sorte. Donc, là, de nouveau, le cannibalisme apparaît comme quelque chose d'ambivalent. C'est-à-dire, on mange l'autre, qui est différent de moi, mais pas trop différent, pour que je puisse ingérer une partie de lui pour me renforcer.
On pourrait poser la question au docteur Dupagne, mais attention, le cannibalisme n'est pas forcément bon pour la santé, parce que vous rappelez que Daniel Carlson s'est vu décerner le prix Nobel de médecine en 1976 pour avoir mis au jour l'agent infectieux responsable de l'épidémie de courroux chez les flores de Nouvelle-Guinée australienne. C'est une maladie cérébrale dégénérative qui est transmise par l'absorption de chair humaine.
Tout à fait. Donc, il a eu effectivement le prix Nobel pour le priant, qu'il a découvert à l'intérieur de cette maladie. Mais, et j'en parle dans cet ouvrage et dans d'autres articles un peu plus scientifiques ou un peu plus approfondis. En fait, la relation entre le courroux, donc cette maladie dégénérative qui fait penser à la maladie de la vache folle, donc l'ESB, l'encéphalite spongiforme, bovine, n'est pas, on ne sait pas très bien et on ne sait toujours pas si elle est
elle est vraiment liée au cannibalisme, c'est-à-dire au fait d'ingérer le cerveau de ses ancêtres.
Merci beaucoup, Monder Kilani. Ça s'appelle « Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale ». Et c'est aux éditions du Seuil dans la collection « La couleur des idées ». Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous de m'avoir reçu.
À bientôt.
À bientôt.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Votre sujet du jour est quasiment philosophique. Qui a le droit de prendre des risques pour sa propre santé?
Bah oui Mathieu, c'est une question difficile. Hein. Alors chacun d'entre nous peut décider de vivre plus ou moins dangereusement en matière de pratiques amoureuses, de voyages ou de moyens de transport. En revanche, la santé est un domaine où la prise de risque est souvent interdite par des règlements ou des lois. Alors, je ne vais pas revenir sur l'obligation vaccinale, hein, c'est pas un bon exemple car il existe quand même une protection collective pour certains vaccins. Mais par exemple, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, ça traduit bien l'irruption de l'État dans nos choix personnels et nos prises de risque. Il serait pas absurde de s'étonner d'une telle obligation alors que les réfractaires ne mettent finalement en danger qu'eux-mêmes.
Ouais, sauf que les accidents ont quand même un coût pour l'assurance maladie.
Hein. Et oui, et c'est ce qui à mon sens justifie d'ailleurs une telle obligation. Hein. La ceinture évite des milliers de blessures graves et des décès tous les ans, et ce bilan peut justifier bien sûr une atteinte à notre liberté. Mais dans le domaine médical, il existe des interdits qui sont quand même plus contestables.
Alors lesquels, Dominique ?
On a parlé la semaine dernière de la prise de boissons ou d'aliments pendant un accouchement qui se prolonge. Alors, les aliments solides restent interdits en France pendant le travail, de crainte du passage d'aliments ingérés dans les poumons en cas de perte de connaissance ou de nécessité de césarienne en urgence. Or, cette complication est tellement rare que les études scientifiques n'ont pas permis de mesurer l'impact de la prise d'aliments solides sur sa survenue. Face à un risque aussi infime, est-ce au médecin ou à la femme qui accouche de décider en toute connaissance de cause si son envie de s'alimenter justifie une prise de risque très faible. Alors Agnès Buzyn était interviewée lundi sur notre radio et sa position vis-à-vis des fléaux sanitaires et de risques autrement plus majeurs est intéressante.
Quand je présidais l'Institut National du Cancer, j'ai écrit plusieurs tribunes sur le tabac ou sur l'alcool et je disais toujours la même chose. Ce qui compte pour moi, c'est la bonne information. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent.
Mais est-ce que le vin, c'est dangereux? C'est ça la question. Le président a dit que reprend l'émotion.
Le président a raison quand il dit qu'il ne faut pas emmerder les Français. Là, je pense que les Français n'ont pas besoin d'être emmerdés. Par contre, je pense que le président est d'accord avec moi. Faire de la pédagogie et de l'information, ça n'emmerde personne et ça, c'est juste ma façon de faire de la santé publique.
Voilà, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Hein.
Voilà. Alors, je ne sais pas si cette position est sincère ou si elle est seulement destinée à voler au secours du président, mais j'aimerais tellement que ça soit vraiment le cas. Parce qu'il reste un problème majeur quand même. Les juges condamnent trop souvent les médecins qui ont accepté que leurs patients prennent des risques. Une décharge ne suffit pas, même signée, à les protéger par des magistrats qui contestent souvent la capacité des patients à prendre des décisions éclairées. C'est donc, à mon avis, du côté de la justice qu'il faudrait débuter la pédagogie de la liberté face à la prise de risque éclairée.
Donc on fait de la philo maintenant dans Santé polémique.
On peut si on veut.
Bah écoutez, on va pas se priver et on vous retrouvera jeudi prochain pour une nouvelle chronique qui est à réécouter bien sûr comme chaque semaine sur franceinter.fr. Merci Dominique, à jeudi.
À jeudi.
Ainsi s'achève cette tête au carré. Merci à Maxime Ingrand et Kevin Pelot qui étaient à la technique. Demain, ce sera vendredi, donc horaire du club avec au programme le canal de Suez, le jour où il n'y aura plus de vin. Et puis dernier sujet sur les gènes de l'autisme.